lors d'une première émission avec André Kervella, à l'occasion de la publication de son dernier livre « Unt en lumière, la stricte observance templière décodée » paru aux éditions de l'Atarante à Aubagne, nous avons identifié le travail de décodage, de décryptage de ce texte fondateur de la stricte observance templière. Dans cette deuxième émission, André Kervella revient sur les origines de la franc-maçonnerie jacobite. André Kervella, au-delà de cette passionnante recherche qui occupe bien trois chapitres de votre livre, et c'est vraiment une enquête policière à laquelle vous nous conviez, j'ai aussi le sentiment que vous avez cherché à redorer le blason du baron allemand Karl von Unt et celui de la stricte observance templière. Est-ce qu'il y avait un tel projet dans votre travail ?
Redorer le blason, pas vraiment. je vais vous faire une petite révélation. Lorsque, effectivement, j'ai commencé à travailler sur la franc-maçonnerie dans les années donc 80-90, en fait, ce que je voulais faire, c'était apporter des éléments supplémentaires ou complémentaires à la thèse la plus communément admise, c'est-à-dire la thèse qui consiste à dire la franc-maçonnerie est née en 1717 sous l'influence des intellectuels britanniques. Et puis elle s'est développée, puis elle est venue en France, et c'est ainsi qu'aujourd'hui on parle d'une franc-maçonnerie œcuménique, latitudinaire, etc., etc. Et en fait, ce projet qui était de consolider une thèse, au tout départ, s'est avéré le contraire, c'est-à-dire qu'en creusant, en approfondissant, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça ne tient pas la route, la thèse classique, elle ne tient pas la route. Alors au fur et à mesure où j'ai effectivement découvert des archives qui permettaient de dire ben, cette thèse-là, dite andersonienne, cette thèse andersonienne s'avère fallacieuse, et même, je dirais, intentionnellement fallacieuse, est-ce qu'on peut trouver une autre façon d'écrire l'histoire de la franc-maçonnerie ? Ma réponse a été oui, puisque justement, au fur et à mesure de mes investigations, je me suis aperçu que les jacobites avaient joué un rôle essentiel. Je dirais même le premier rôle. Alors, pour ce qui concerne votre question, est-ce qu'il s'agissait de réhabiliter le baron de Unt ? Non, je ne me pose pas la question morale, en fait. C'est-à-dire, si la conséquence de mon travail est effectivement de réhabiliter Unt, je la prends comme conséquence. Mais au départ, il s'agit d'étudier objectivement le mieux qu'on peut faire, hein, quand on essaye l'objectivité. On sait très bien qu'on n'est jamais à 100% objectif, il y a toujours une part de subjectivité qui intervient. Mais au départ, il ne s'agit pas de dire « Ah, je vais réhabiliter Unt ». Non, je vais voir en fait ce qui est arrivé à Unt. Je vais essayer de voir qui était en relation avec lui, qu'est-ce qu'on lui a dit, qu'est-ce qu'il a fait du discours qu'on lui a tenu ou de la mission qu'on lui a donnée. Et à partir de là, effectivement, est-ce qu'on peut contester ceux qui, après Unt, l'ont dénigré ? C'est une autre affaire, ça. Hein. Ce n'est pas réhabiliter au départ. C'est réhabilité comme conséquence du travail.
Vous avez évoqué brièvement la maçonnerie jacobite et sa rivale hanovrienne, andersonienne. Est-ce qu'on peut dire quelles sont les particularités de chacune, globalement, de ces deux maçonneries ?
Ah oui, tout à fait. Dans ce cas-là, il faut remonter justement à l'époque où la franc-maçonnerie, selon moi, apparaît, c'est-à-dire au moment où on a les premières traces. De la philosophie maçonnique ou les premières traces de cette sociabilité restreinte qu'est la franc-maçonnerie, les loges. Ce sont les années 1630. Les années 1630 où effectivement il y a une guerre civile dans les îles britanniques. Charles Ier, qui est un des ancêtres de Charles-Édouard Stuart, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, mais Charles Ier Stuart, fils Jacques Ier Stuart est contesté. Il est contesté pour des raisons diverses, religieuses, politiques, etc. Et donc, lorsqu'il est contesté, il y a des opposants, des résistants, en quelque sorte. Le mot est un peu ici inapproprié, mais enfin, bon, des gens qui résistent à sa politique, voilà, hein, qui effectivement prennent les armes et qui combattent ses troupes à lui, les troupes loyalistes. Et on constate que chez les loyalistes, hein, les légitimistes, disons, il y a effectivement ce mouvement qui apparaît, qui est le mouvement des francs-maçons, avec le mot de maçon, avec effectivement les premières loges, notamment on en a une trace indubitable avec Elias Ashmole, qui est donc un officier légitimiste. Hein. La première loge dont on a une trace nommée comme loge est celle où Elias Ashmole, le fameux érudit britannique, a été initié. Donc, les années 1630 jusqu'aux années fin des années 1640 où Charles Ier est capturé et puis décapité, disons, on a 20 années là où sans aucun doute apparaît la franc-maçonnerie en tant que franc-maçonnerie politique, je précise, favorable aux Stuarts. Donc, cette franc-maçonnerie, quand Cromwell vient au pouvoir, eh ben, c'est les Stuarts qui ont perdu, ben, ils rentrent dans la clandestinité. On en a des traces aussi avec le général Monck, enfin, etc., peu importe. Et quand Charles II, fils de Charles Ier, qui était en exil, Charles II était en exil, il est restauré en 1660, hein, la franc-maçonnerie revient, je dirais, en faveur. Elle reste discrète, mais elle revient en faveur. Charles II poursuit son règne, il meurt. Son frère Jacques II prend le pouvoir, mais Jacques II est à son tour contesté par des opposants et Jacques II est destitué, 1688. Donc, entre 1660 et 1688, il y a 28 ans, eh bien, les francs-maçons sont reparus discrets encore, dont le fameux Elias Ashmole, dont on sait qu'il a été initié dans les années 1640, et le voilà qui reparaît dans les années donc, où Charles II est restauré. La Restauration, lui-même l'écrit dans son journal. Alors, quelle déduction peut-on faire? C'est que quand Jacques II est chassé de ses trônes, il vient se réfugier en France. D'accord? Donc, il vient se réfugier en France, il est accueilli par Louis XIV, il meurt en 1701, son fils Jacques III prend la succession, est reconnu comme roi d'ailleurs, sans trône, mais reconnu comme roi par Louis XIV, et il y a des tentatives de reconquête. La plus marquante est la tentative de reconquête en 1715. 1715, tentative de reconquête, celui qui en prend le commandement est le comte de Mar, il n'était pas duc à l'époque, le comte John Askin of Mar. Donc, il est effectivement celui qui essaye de reconquérir le trône contre le pouvoir d'usurpateur, disent les jacobites, puisqu'ils ont chassé donc Jacques II. Et à partir de là, on s'aperçoit que c'est en 1715, eh bien, ça ne réussit pas. C'est-à-dire que la tentative de reconquête, l'insurrection menée par le comte de Mar, ne réussit pas. Chose qu'il est important de noter. On sait qu'à cette époque, le comte de Mar est franc-maçon, puisqu'en 1714, on a des lettres qui lui sont adressées en tant que franc-maçon. Donc, c'est une chose importante à noter. 1515, donc, l'intentative de résurrection échoue. 1717, qu'est-ce qu'on voit apparaître? La franc-maçonnerie andersonienne. Dans les écrits d'Anderson, il y a une allusion très nette aux rebelles. Et là, on s'aperçoit que le discours, la rhétorique d'Anderson, c'est de réconcilier. Anderson propose une franc-maçonnerie qui vise à réconcilier tous les Britanniques. Et donc, il va prôner une franc-maçonnerie, je dirais, une franc-maçonnerie de tolérance, une franc-maçonnerie où, effectivement, on oublie toutes les causes de dissentiment antérieurs et on s'unit sous la bannière de Hanovre. À ce moment-là, les jacobites sont mis sous l'éteignoir, mais eux, ils n'entendent pas rester sous l'éteignoir. Et donc, en France, notamment, ils vont développer leur propre maçonnerie, c'est-à-dire celle qui est originaire des années 1630, ils vont essayer, bien entendu, de la maintenir, de continuer à l'alimenter. Donc, en France, les premières loges qui apparaissent sont des loges sous influence jacobite. C'est si évident, que les premiers grands maîtres de la franc-maçonnerie française sont tous des jacobites. Aucun n'est hanovrien et aucun, on ne peut dire d'aucun, qu'il a été initié dans le système maçonnien. Voilà. Donc, ce qui m'a amené à me poser la question d'abord de Maréchal. Maréchal a participé, comte Maréchal dont on parlait tout à l'heure, a participé à la tentative avortée de reconquête de 1715. Il était déjà franc-maçon. Et en tant que franc-maçon, il n'a pas perdu l'espoir. Après 1715, tous les jacobites de l'exil ne perdent pas du tout espoir de reconquérir. Donc, ils continuent à avoir une option politique qui est l'option de reconquête. Et puis, comme au départ, le lien a été fait entre effectivement franc-maçonnerie et politique, ce lien a été maintenu, mais il s'est distendu peu à peu. Il s'est distendu peu à peu parce que les années font que parfois on espère sans espérer vraiment, etc. Donc, la franc-maçonnerie française, sous influence jacobite, a gagné des aristocrates français qui eux-mêmes étaient partisans des jacobites, sympathisants, mais n'étaient pas nécessairement embarqués dans une idéologie de reconquête, et puis qui donc ont, je dirais, non pas profanisé, mais ont civilisé, même pas, le mot n'est pas bon, ils ont modifié en tout cas le comportement vis-à-vis de la franc-maçonnerie. Alors, la caractéristique de Wundt, c'est qu'au moment où Marichal le contacte, il faut savoir que Wundt a été initié en 43 dans justement la filière jacobite qui était à Paris. Il a été initié, il a découvert justement ce qu'on appelait donc les grades templiers ou le grade templier en 1743. Les jacobites savaient qu'il était sensible à leur cause et en 1751, eh bien, Charles-Édouard Stuart, qui avait essayé de faire une autre tentative de reconquête en 1745 et qui avait échoué, en 1751, c'est l'année de la fameuse patente, en 1751, Charles-Édouard, descendant de Jacques II, Jacques III, eh bien, envisage aussi de mener une opération militaire en Grande-Bretagne. Il va essayer de s'allier, ou du moins d'avoir le soutien de Frédéric de Prusse. Il va y avoir un entretien en février 1751 entre Maréchal, Charles-Édouard, Frédéric et le frère de Maréchal. Ils sont quatre. Ils sont quatre à avoir un entretien en février 1751. Et comme par hasard, quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, apparaît justement ce qu'on appelle la stricte observance templière, sur un nom qu'il ne sera donné après, hein, mais apparaît justement Wundt. Wundt va essayer de fonder en Allemagne le système qui va avoir pour nom la stricte observance templière, et justement sur une patente qui lui est donnée par le jacobite qui s'appelle le comte Maréchal. Voilà. Et donc, la façon dont les contemporains de Wundt ont interprété le travail de Maréchal a consisté à dire à Monsieur Wundt, ou cher baron, qui vous a donné l'autorisation de développer votre système ? Qui ? Wundt n'a pas dit qui, parce qu'il y a le serment du secret. Il a refusé de dire qui. Il a dit « j'ai une patente ». Il a montré la patente, mais il n'a pas fourni le code. Parce qu'il n'avait pas le droit de fournir le code non plus. Donc, beaucoup de contemporains se sont dit « Wundt, c'est un charlatan. Il invente quelque chose, on ne sait pas de qui, de quoi. Il nous montre des papiers, on n'arrive pas à les interpréter. Il refuse de nous donner le nom de ce qu'il appelle les supérieurs inconnus. C'est bizarre. » Donc, on l'a attaqué en disant que c'était un chenapan égaré dans une fantasmagorie très critiquable. Voilà, grosso modo, la position de Wundt de son vivant.
Vous dites qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, le recrutement se fait dans la noblesse, dans la chevalerie.
Tout à fait.
C'est l'histoire qui l'explique. Comment est-ce que vous expliquez que ce recrutement se fasse dans ce secteur-là ? Pour des raisons politiques ?
Alors déjà, au départ, si on revient aux années 1630, il va de soi que les partisans de Charles II sont des proches de la noblesse. D'ailleurs, le mot de maçon est dit « circuler parmi la noblesse hein, » et non pas parmi les artisans. Ça, c'est une thèse, je dirais, galvaudée qui vient après, qui a été surajoutée après. Le mot de maçon, quand on regarde les témoignages de l'époque, est dit « circuler parmi la noblesse ». Donc, la noblesse fidèle aux Stuarts, il est normal que l'on considère que c'est elle qui constitue le berceau des premières loges. Si ce ne sont pas des nobles au sens d'extraction, ce sont des proches des nobles, hein, des grands négociants ou des grands intellectuels comme Ashmole. Donc, la thématique qui va être la thématique privilégiée des jacobites, c'est une thématique en liaison avec cette origine nobiliaire et Maréchal étant noble, il est comte, hein, il va effectivement lui-même considérer que la vraie maçonnerie, je mets le mot vrai entre guillemets, c'est son opinion, hein, la vraie maçonnerie, la franc-maçonnerie authentique s'appuie sur les valeurs de l'aristocratie. Aristoï, le très vertueux, celui qui effectivement est censé avoir toutes les vertus guerrières et les vertus morales par la même occasion. Et en plus, comme Maréchal est un grand érudit, il va dire les grands intellectuels, les grands aristocrates et les grands guerriers, quoi. Grosso modo, c'est ça le substrat de sa franc-maçonnerie.
Le chapitre 6 de votre livre, Preuve par l'image, montre que les blasons de la SOT, la stricte observance templière, s'inspire très peu de la fresque templière. Alors, au fur et à mesure que vous parlez, on commence un peu à le comprendre. Mais comment est-ce que vous-même vous avancez cette remarque héraldique qui est assez aussi, comment dire, qui pourrait être choquante pour des maçons ?
Ben, elle peut être choquante au sens où, effectivement, quand on considère l'iconographie prêtée aux templiers, c'est rien. Je veux dire que ce sont des batailles, ce sont des chevaliers agenouillés prêtant serment, comme sur la couverture là, du livre, mais il n'y a pas de grade templier. Il y a des fonctions, il y a des statuts parmi les templiers, il y a le chevalier, il y a l'écuyer, enfin, etc. Il n'y a rien dans l'iconographie qui effectivement peut servir d'élément d'inspiration pour les francs-maçons qui prétendent reprendre effectivement le message templier. Il n'y a rien. Donc, il faut chercher ailleurs. Et si l'on veut effectivement trouver quelque chose, eh bien, on doit encore une fois s'intéresser non pas à la geste templière, mais à la geste jacobite. Dans l'iconographie jacobite proprement dite, celle qui a été inspirée justement à partir des troubles politiques des années 1630, on s'aperçoit qu'on trouve effectivement les thèmes qui vont être repris par la stricte observance. Il y a le thème de l'arbre coupé, il y a le thème des colonnes brisées, il y a le thème du navire qui part un peu, sans rame ni voile. Ces thèmes-là, puisque l'iconographie permet de les identifier, eh bien, si on les rapproche de l'iconographie de la stricte observance en prière, là aussi, on trouve des convergences importantes, des analogies. Et ce que je me suis appliqué à montrer dans le livre, c'est que, par exemple, l'arbre coupé se retrouve dans plusieurs des vignettes ou des figures, des lithographies, enfin, bref, peu importe, des images, disons, des illustrations de la stricte observance. Et l'arbre coupé, c'est effectivement l'arbre coupé de la dynastie Stuart, qui n'aspire qu'à revivre. Il n'y a pas que dans les images, je dirais, des livres jacobites, il y a dans les vers, les objets divers et variés qui sont inventés pour la propagande jacobite, qui sont donc diffusés, créés par des artisans et diffusés parmi les sympathisants des jacobites en Grande-Bretagne. Eh bien, on trouve sur les vers, sur les objets, les mêmes thèmes. Et ces thèmes-là ne peuvent pas être des thèmes hanovriens. C'est bien ça qu'il faut montrer. C'est qu'effectivement, il est impossible aux hanovriens, je dirais, de la branche andersonienne, d'adopter les thèmes templarisme jacobite. Pas seulement la stricte observance templière, il y a aussi des grades qui apparaissent, bon, les grades écossais, comme on dit, hein, qui apparaissent avant Hunt, les grades écossais qui apparaissent dans les années 1720, sont des grades qui exploitent une thématique impossible à importer chez les Andersoniens. Le thème de l'errance, de l'exil, de la reconquête, de Jérusalem à reconquérir, qui est Londres, donc le thème du combat, etc., non, ben oui, Anderson ne peut pas les reprendre, puisqu'il plaide pour le pacifisme total. D'ailleurs, contrôlez bien l'iconographie hanovrienne et l'iconographie qui se développe en France, vous ne verrez pas dans l'iconographie hanovrienne ou disons anglaise, vous ne trouverez pas de franc-maçon portant l'épée. Au côté, hein, oui. Au côté, c'est-à-dire l'épée du combattant, du militaire. Par contre, dans les gravures des années 1740, vous aurez beaucoup de francs-maçons représentés dans les loges françaises qui portent l'épée au côté. Il faut être attentif à ça.
C'est une affaire de détail.
Ma foi, on peut dire que les détails, effectivement, sont révélateurs de ce qu'on a omis pour faire des mythographies. Le détail ramène au réel.
André Kervella, que vous reste-t-il à étudier maintenant ?
Pour le moment, je me suis focalisé sur le XVIIIe siècle. Mais, bien entendu, l'histoire de la franc-maçonnerie ne s'arrête pas avec la Révolution française, ne s'arrête pas au commencement du XIXe. Donc, j'ai labouré, si j'ose dire, le XVIIIe siècle pendant plus de 20 années, j'ai encore une perspective. Il me reste encore deux ou trois siècles, deux siècles, disons, à étudier de près pour voir justement en quoi peut-on, à un certain moment, considérer qu'il y a plutôt la légende et du mythe et en quoi plutôt il faut ramener vers une réalité, je dirais, déplaisante pour certains.
Un grand merci, André Kervella, d'avoir bien voulu accepter cet échange autour de votre dernier livre, Honte en lumière, la stricte observance templière décodée aux éditions de la 40 à Aubagne. C'est un vrai plaisir. Merci à vous.
Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.